Nous lisons l'épître aux Philippiens, Philippiens 4, Philippiens 4, à partir du verset 10. C'est Paul qui dit aux Philippiens, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Voilà le verset essentiel d'aujourd'hui. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. C'est vrai que le contexte, c'est Paul qui dit aux Philippiens, « J'ai reçu ce que vous m'avez envoyé et je suis béni par rapport aux moyens, grâce aux moyens que vous m'aviez fait parvenir. » Mais lorsque, selon moi, tel que j'ai été touché, au fait, je considère que Paul a voulu parler aussi de sa propre situation avec Dieu, de la réalité de la communion avec Dieu, qui fait que le chrétien qui est en communion avec Dieu, il possède tout, il a tout reçu. Je ne pense pas que quand il dit « j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance », il veut se limiter qu'à l'argent qu'on lui a envoyé, qui lui a été envoyé par les gens de Philippe. Mais je crois que c'est le même Paul qui dit dans 2 Corinthiens 6, nous manquons des choses, mais nous possédons tout. Je crois que c'est dans le même esprit qu'il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. La prédication d'aujourd'hui, c'est qu'un véritable chrétien a tout reçu et il est dans l'abondance. Il a tout reçu. On entend beaucoup de chrétiens pleurnicher, passer leur temps à demander des choses, à crier, à réclamer. Certains disent même que c'est notre droit. Bien-aimés, nous recevons des choses venant de Dieu comme des cadeaux. Ce ne sont pas des droits. Ce sont des cadeaux. C'est la bonté de Dieu qui fait qu'on reçoive ces choses-là. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il fait par sa bonté, dans sa grâce. Et Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et quand quelqu'un a tout reçu, quand quelqu'un est dans l'abondance, qu'est-ce qu'il pense faire maintenant? Il pense utiliser son abondance. Il ne pense pas encore amasser, amasser puisqu'il est déjà dans l'abondance. Il va penser à manifester cette abondance-là. Quand quelqu'un est rassasié, il ne pense plus à manger puisqu'il est rassasié. Il pense maintenant à dépenser ce qu'il a mangé à travers des gestes physiques, à travers des actions qui vont mettre son corps en mouvement de sorte que l'énergie qu'il a reçue en mangeant puisse être dépensée à travers les exercices physiques, la marche ou le travail. Et nous connaissons la conséquence du fait de manger sans bouger, sans faire du sport, sans travailler. La conséquence, c'est qu'on grossit. Donc on prend de l'embonpoint et nous connaissons la conséquence après. Des graisses, de l'embonpoint, ça finit par l'obésité, ça finit par des maladies cardiovasculaires, le diabète et beaucoup d'autres choses. Et donc, les chrétiens qui veulent tout le temps recevoir, tout le temps se plaindre, ils s'attendent à ce que les gens leur donnent, ils s'attendent à ce que Dieu leur donne. Ils sont là toujours dans la position à dire « je veux », finissent par devenir gras, finissent par devenir malades spirituellement. La logique de Dieu, c'est qu'il nous a tout donné. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Le Seigneur a dit « Allez et faites toutes les nations des disciples et je serai avec vous. » Le Seigneur a dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, prêchez l'évangile et ne prenez pas dans vos poches de l'argent. » Comment tu peux envoyer des gens en mission et leur demander de ne rien prendre comme moyen financier? C'est que tu leur as déjà donné. Ils ont ça. Mais puis ils n'ont peut-être pas ça à la manière des humains, mais ils ont, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens sans leur donner la provision. Donc si on dit à ces gens-là de ne pas prendre de provisions, c'est que c'est déjà prévu. C'est comme souvent nous quand on voyage et qu'on doit être accueilli par des bien-aimés là où nous partons, on nous informe à l'avance, n'amenez pas les couvertures, n'amenez pas les serviettes, n'amenez pas ceci parce qu'il y en a déjà ici sur place. Donc quand on part, quelqu'un peut croire que nous partons légers. En réalité, nous partons équipés parce que les choses qu'on n'amène pas nous sont pourvues d'une autre manière. Donc, quand Jésus dit « Allez, poche vide », c'est qu'il a déjà prévu ce qu'il fallait. C'est pourquoi Paul peut dire « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance ». Paul peut dire « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance ». Ça veut dire qu'il sait vivre dans le système poche vide et c'est Dieu qui pourvoit par miracle. Il sait vivre aussi dans le système poche remplie et je prends un peu mes petites décisions. Voilà, j'utilise l'argent, j'achète ce que je veux. Mais il sait aussi vivre dans la position poche vide. Dieu me sert des bonnes choses et je les consomme. Donc on doit être prêt à vivre les deux dimensions. Et dans les deux dimensions, considérer de toute façon qu'on a tout reçu. Tout est à nous, tout est pour nous. Nous lisons dans Luc 15. Luc 15. À partir du verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. » Le père lui dit, « Mais mon enfant, mais toi tu étais dans la maison du roi, dans la maison du papa, il y avait tout. Tu pouvais t'en servir. Ce n'était pas interdit. Il te suffisait de demander. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais une mauvaise conception de ton père. C'est pourquoi tu n'as pas compris que ton père accorde tant de bonnes choses à ton frère. Mais ce que j'ai, mon fils, c'est à toi aussi. Tu pouvais t'en servir, il fallait juste demander, mais tu ne l'as pas fait, c'est tout. Pourquoi te fâcher? Bien-aimé, il y a des chrétiens qui se comportent comme si ce que Dieu donne à l'autre, il ne peut plus lui donner à lui. On a l'impression que le bienfait que Dieu fait à quelqu'un d'autre, c'est comme s'il n'y en avait qu'un seul lot dans le rayon du supermarché. L'autre a pris ça et moi je ne peux plus prendre. Non, si Dieu a fait à l'autre, il en a encore de tels lots, des lots identiques dans son supermarché. Donc il peut faire la même chose qu'avec toi. Il suffit de demander, mais il ne faut pas chercher à rivaliser avec les autres ou à jalouser les autres, ou à être dans une position d'enfant négligé. Donc ce fils-là a voulu dire, mais moi tu me négliges alors que je suis fidèle, et tu t'occupes de celui qui a été infidèle. Le père a dit, non, je ne t'ai jamais négligé. Ce qui est à moi est à toi. Et beaucoup de chrétiens disent, mais Dieu ne fait rien pour moi. Telle chose s'est passée, il n'a pas agi. Alors, Dieu dit, mais non, mais je ne t'ai pas négligé. Je pensais que tu savais que j'étais là. Je ne savais pas que... Je ne pouvais pas comprendre que tu veuilles que je prophétise pour que tu crois que je suis là. Je croyais que tu savais que là où tu es, moi je suis là, parce que je suis ton père, je suis omnipotent, omniprésent, omniscient. Je ne m'imaginais pas qu'il faille que les murs tremblent pour que tu sois conscient que j'étais là. Je croyais que tu allais juste te contenter de ce qui est écrit. Que lorsque tu pries, je suis là. C'est ça, bien-aimé. Donc, il y a une logique humaine qui veut toujours demander pour avoir des choses, pour se sentir fort, Dieu dit, mais vous avez tout. Je vous ai tout donné. Nous lisons Matthieu 17. Nous allons lire beaucoup de passages. Matthieu 17, 24. Donc, il faut pas mal interpréter le passage que nous allons lire. Faut être honnête et payer les impôts. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes, c'est-à-dire l'impôt, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye pas les deux drachmes. » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Amen. On demande à Pierre les impôts pour lui et son maître Jésus. Jésus dit à Pierre, est-ce que les fils doivent payer les impôts alors que c'est leur papa qui est roi? Pierre dit, ben non, c'est les autres qui doivent payer. Jésus dit, voilà. Donc, moi, je n'ai pas à payer les impôts parce que mon père est roi. Toi non plus, parce que je t'ai amené à devenir son enfant. Mais cependant, pour éviter de scandaliser les gens, pour que les gens ne confondent pas ce que je suis venu faire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on va payer pour ne pas les scandaliser. Et comment Jésus a payé? Il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson. Jésus n'a pas mis la main dans la poche et sorti le statère. Il a demandé à Pierre d'aller pêcher. Il dit, quand tu pêcheras le poisson, dans le ventre du poisson, tu trouveras l'argent qu'il faut pour payer les impôts. Et Pierre est parti, il a pêché, il a trouvé l'argent qu'il fallait. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Nous avons tout, mais ce que nous avons sort au bon moment. Jésus n'avait pas l'argent des impôts depuis longtemps. Il l'a sorti en ce moment-là. Mais il l'avait. Pas dans sa poche, mais il l'avait. Et il l'a sorti qu'en ce moment-là. Nous, nous voulons posséder pour sentir qu'on a. Nous voulons regarder nos biens, regarder les dons spirituels, regarder les possessions spirituelles. Et là, on réalise, tiens, Dieu est avec nous, il marche avec nous, parce que nous voyons des choses. Et c'est pourquoi nous passons notre temps soit à demander, soit à nous plaindre qu'on ne nous a pas donné des choses. Mais Dieu dit, mais non, vous avez tout. Vous savez, les gens, moi je n'ai pas eu encore de vision, voir Jésus, voir quelqu'un du ciel. Bon, pourtant ça fait des années de conversion, mais zéro. Il y a des gens qui ont eu des visions de Jésus. Mais à chaque fois, c'est curieux, Jésus est toujours calme, tranquille, rassurant. La personne va se plaindre. Mais mon mari est mauvais. Jésus va dire, ne t'inquiète pas. C'est réglé cette affaire. La personne va se plaindre. Ah, mes enfants sont têtus. Jésus, toujours dans les visions, dit, ne t'inquiète pas, c'est réglé. C'est ça notre problème. Nous refusons de marcher par la foi. Nous refusons de considérer que ce que nous cherchons, nous avons déjà. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Pendant que tu cherches, vous savez, imaginez que vous êtes entré dans votre chambre et vous avez senti les clés tomber. Et vous allez dans la salle de bain. Après, vous dites, ah, il faut que je récupère les clés. Vous vous souvenez bien que c'est tombé dans la chambre. Est-ce que vous allez chercher au salon? Non. Même si pendant 3 minutes, vous ne voyez pas dans la chambre, vous allez vous dire que les clés n'ont pas de jambes. Donc les clés sont là. Vous ne cherchez pas parce que, comme à la loterie, vous ne savez pas si vous allez gagner ou pas, si vous allez les trouver ou pas. Vous cherchez parce que vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'elles sont là. Dieu nous demande d'avoir le même comportement. Quand nous prions, ne prions pas comme quelque chose qu'on ne sait pas si ça va venir ou pas. Quelque chose qui est distant, loin. Non, considérons que ça y est, dans ce local, il suffit de bien chercher, je vais trouver. Il suffit que j'aie la bonne attitude. Il suffit que j'obéisse à Dieu. Il suffit que j'ouvre les yeux quand le Saint-Esprit parle. Il suffit que... Je vais mettre la main dessus. J'ai tout reçu. J'aime beaucoup cette phrase-là. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Paul était conscient qu'il avait tout. Tout était à lui. Étant le fils du Créateur, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Il est omniprésent. Il dit, j'ai tout reçu. C'est une question de moment. Dieu manifestera cela au bon moment. C'est comme un enfant qui a 10 ans, dont le père est milliardaire. C'est un enfant qui a tout. Il a des avions, il a des voitures. Mais est-ce que pour autant qu'il conduit une voiture? Non. Il sait qu'il a tout ça, mais viendra un âge où il pourra conduire les véhicules que son papa a, puisque ce sont ses véhicules, c'est l'héritier. Cet enfant-là, quand il regarde la voiture, il ne regarde pas ça comme un rêve, en disant, oh, si seulement on pouvait avoir aussi une Mercedes, si seulement, non, il regarde ça comme quelque chose qu'il a, mais qui va se manifester à un moment donné. Et nous devons prier dans cette logique-là, nous comporter dans cette logique-là. Il y a beaucoup de gens qui crient, mais Seigneur, je veux tel don spirituel. Seigneur, comment se fait-il que le pasteur ne me voit pas? Pourtant, j'ai fait un effort pour chanter pendant le culte, pour qu'il entende la voix, pour que j'entre dans la chorale. Mais même, est-ce qu'il est sourd? Comment se fait-il que le pasteur n'a pas vu que j'ai un bon talent quand je parle? J'ai une bonne formation universitaire et avec un peu de connaissances bibliques, je peux prêcher. Tout ça, c'est des recherches charnelles. Paul savait qu'il avait tout reçu. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter comme les humains s'inquiètent. Comme quelqu'un de rassasié, il ne pensait plus à manger mais à donner. Comme quelqu'un qui a tout reçu, qui a beaucoup, il ne pense plus à amasser. Je parle de quelqu'un de normal. Il ne pense plus à amasser, mais il pense à donner. Mais beaucoup d'entre nous se comportent comme des gens anormaux. Ils pensent toujours à amasser. Ils pensent toujours à critiquer Dieu pour ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas. Alors Dieu dit, je t'ai donné. Cherche bien, tu trouveras. Mais tu ne cherches pas ce qui n'existe pas. Tu cherches ce qui est déjà, mais qui est caché. Amen. C'est ça, c'est le comportement que Dieu attend de nous. Et nous lisons dans Luc 19, 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Jésus doit entrer à Jérusalem, mais il a besoin d'un âne, d'une monture. Et il n'y en avait pas. Ils n'en avaient pas plus tôt. Et Jésus dit aux disciples, « Allez. » Dans tel endroit, vous allez trouver un monsieur qui a un ânon et cet ânon n'a jamais été utilisé comme monture. Et dites, prenez l'ânon. Jésus ne demande pas de demander la permission. Il dit, prenez l'ânon. si on vous dit, mais pourquoi vous prenez? Dites, le Seigneur en a besoin. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Il faut avoir cette capacité-là. Quand tu demandes quelque chose, est-ce que c'est le Seigneur qui en a besoin? Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos convoitises. Mais il y a des choses, quand tu demandes, tu sais que ça, le Seigneur en a besoin. Donc, automatiquement, j'ai la chose. Donc, je peux demander avec courage et avec certitude que Dieu va donner. On a un petit exemple avec Anne. Elle cherchait un enfant. Mais pourquoi chercher l'enfant? Pour rivaliser avec la première femme de son mari. C'était pour prouver qu'elle aussi, elle pouvait enfanter. C'est pourquoi elle cherchait l'enfant. Est-ce qu'elle avait obtenu l'enfant? Non. Jusqu'au jour où elle s'est dit, mais tiens, il n'y a plus beaucoup de serviteurs dans ce monde, dans notre région. Si je pouvais enfanter un serviteur pour Dieu, ça serait une bonne chose. Que Dieu utilise mon ventre pour lui enfanter un serviteur. Elle change de prière. Il dit, Seigneur, je souhaiterais avoir un enfant que je te donnerai pour te servir. Automatiquement, l'enfant est venu. Parce que le Seigneur en avait besoin. Est-ce que le Seigneur a besoin que tu manges? Oui. Donc, il va pourvoir. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois rechercher avec désespérance, avec colère, avec critique. Il faut faire en sorte que ce que tu demandes soit réellement le besoin du Seigneur aussi. Et tu demanderas avec beaucoup plus d'assurance. Est-ce que le Seigneur veut que tu sois guéri? Souvenez-vous du lépreux. Il est venu dire à Jésus, « Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus dit, « Si je le veux, mais je le veux moi. Comment moi je peux refuser qu'un lépreux soit purifié? Je suis bon. Sois pur. » Et le lépreux a été purifié. Beaucoup de gens demandent comme si Dieu était méchant. Alors il faut user des stratagèmes pour le pousser à donner. Non. Il le veut. Puisqu'il t'aime. Mais il y a des demandes qui ne sont que des demandes de satisfaction égoïste ou pour rivaliser avec d'autres personnes. Ce n'est pas bon. Dieu veut nous exaucer dans ce qui est bon, vrai, pour nous et pour lui. Et ce qui est bon pour lui sera bon pour nous, forcément. Et ce qui est vraiment utile pour nous sera bon aussi pour lui. C'est une question de moment. Mais dans l'attitude, nous devons marcher, travailler comme des gens qui avons tout reçu. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Et là, Jésus dit, prenez l'âne. Et ils ont pris l'âne, ils sont partis avec. Parce que tout sur la terre obéit à Dieu. Tout. Le Seigneur dit dans Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. C'est quoi avoir la vie en abondance? C'est avoir une vie heureuse. Une vie qui te réjouit, qui t'amène à être dans le bonheur. C'est ça la vie en abondance. Ce n'est pas forcément avoir des biens, non. C'est avoir une vie heureuse. Donc c'est une vie dans laquelle tu ne manqueras pas. Vous savez, le Seigneur dit, dans psaume 23, c'est David qui dit, l'Éternel est mon berger, la plupart d'entre nous disent, je ne manquerai de rien. Mais la vraie traduction, c'est je ne manque de rien. Donc David avait parlé comme Paul. C'est un fait. J'ai des trésors. Mais c'est vrai que d'une manière humaine, c'est je ne manquerai de rien dans le sens où je ne les ai pas forcément devant moi, mais au temps venu, ces choses-là apparaîtront. Mais dans la profondeur de la traduction, c'est je ne manque de rien. Ces choses-là sont déjà. Cependant, elles vont se manifester au temps venu. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, de 18 à 20, c'est écrit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour les enfants de Dieu. Alors, vous savez le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible? Toutes les promesses sont oui en Jésus. Ayant cru en Jésus, toutes les promesses de la Bible deviennent réelles pour nous. Elles sont nôtres. Dieu promet qu'il veut qu'on soit puissant. Psaume 68, 29. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Jérémie 15, 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il nous promet, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Il nous dit, vous serez les premiers et non les derniers. Il nous dit que la femme dans sa maison est une vigne féconde. Il y a plein de promesses. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu te confies en lui, tu vas recevoir la paix. Il y a plein de promesses. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Mais à chaque fois, Dieu donne la force pour en sortir. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et 2 Corinthiens 1, 18 à 20 nous dit que toutes ces promesses-là sont réalisables lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens sont-ils en train d'envier la richesse telle que le monde l'expose? Beaucoup de chrétiens sont en train d'envier les procédures humaines où c'est le compte rempli qui fait de toi un homme. Ou c'est les actions dans les entreprises qui fait de toi un riche. Non, ça c'est la logique humaine. La logique de Dieu, c'est que nous le sommes déjà puisque toute la terre appartient à notre papa. Puisqu'il est notre père et que toute la terre lui appartient, donc tout est à nous. Mais nous en disposons au temps convenable. Au temps convenable. Combien de chrétiens n'ont-ils pas eu, en quelque sorte, les questions des examens à l'école à l'avance? Beaucoup ont expérimenté la fidélité de Dieu à ce niveau-là. Le Seigneur va te conduire. Il va s'occuper de ta réussite. Tu n'as pas besoin de la rechercher comme les humains cherchent, comme si Dieu était incapable. Toi, tu fais ta part, tu travailles, le Seigneur fera sa part et te conduira dans la réussite. À tous les niveaux, nous avons tout. Et notre comportement doit le manifester. Il y a des chrétiens qui disent, mais oui, mais on voit les païens s'enrichir, nous on n'a rien. Et ça donne l'impression qu'être malhonnête, c'est ça qui paye. Non, même dans le monde, on dit, le crime ne paye pas. Ce n'est pas ça qui paye. C'est être près de Dieu qui paye. Parce que Dieu peut protéger ta vie. Il peut protéger tes enfants. Il peut protéger l'avion dans lequel tu es. Il a cette capacité. Mais les humains ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, peut toujours te protéger. Dieu peut te donner alors que le monde n'arrive à rien faire pour toi. Alors que lorsque nous voyons les richesses de la terre, est-ce que ça conduit à une sécurité totale? Non, sinon le président polonais ne mourrait pas d'un accident d'avion. Alors qu'il y a plein de gens qui voyagent dans les classes économiques qui ne meurent pas. Lui, il n'était pas même pas la première classe. L'avion, c'était à lui. Sûrement, il y avait un salon dans l'avion avec un grand écran plat. Mais ça n'a pas empêché qu'il meure. Hitler avait une armée puissante. Ça n'a pas empêché qu'il meure. Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, mais ça n'a pas empêché que les coups des autres lui donnent la maladie qu'il a aujourd'hui. On peut dire que Mohamed Ali a vécu une moitié de sa vie dans la gloire et une moitié dans l'humiliation totale. Une maladie grave comme ça qui te fait trembler. On te tient pour te faire marcher. Est-ce que le monde donne la sécurité? Non. Je pense que vous vous en doutiez que j'allais parler de Strauss-Kahn. Voilà. On l'a vu. Est-ce que la plupart d'entre nous ici, vous n'avez pas fait de garde à vue? Mais Strauss-Kahn, pire que cela, menottes. Il y en a qui sont ici qui n'ont jamais même vu la couleur des menottes. Menottés, barbe de 2 jours. Et le policier qui le tient le bras comme ça avance. Vous avez vu comment la juge lui parlait? Monsieur, je n'ai pas confiance en vous. Je vous garde encore en prison. Ah! Directeur du FMI, celui qui fléchit les genoux des présidents africains. Le juge américain dit, bon, voilà, j'ai mon poisson. Je vais me lâcher sur lui. Voilà. Bien-aimé, le monde ne donne pas la sécurité. Nous connaissons beaucoup d'amis, pasteurs, qui ont cru que c'était l'argent ou le succès du nombre qui était important. Aujourd'hui, ils sont à terre, chaos, possédés et incapables de servir Dieu et incapables d'être heureux, divorcés. Il y en a qui ont environ parfois 8 à 10 maîtresses parce qu'ils ont cru que la gloire humaine, l'argent, c'était des valeurs qui sécurisaient, qui donnaient de l'importance à la vie. C'est faux, c'est faux. Madoff, il a vécu combien d'années dans la gloire et dans l'argent? Aujourd'hui, il est en prison à perpétuité. Sans compter, bien-aimé, le déshonneur que ton fils se dise « Mon père est un voleur ». C'est un déshonneur. C'est ça l'héritage que tu laisses. Et tes enfants vont circuler ayant honte de s'afficher être tes enfants. L'argent ne sécurise pas. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'envier les païens en disant, mais tout marche pour eux. C'est le problème du psaume 73. Asaph était en train de crier contre Dieu en disant, mais oui, mais moi je me suis sanctifié. Et rien ne marche pour moi, et tout marche pour ceux qui font le mal. Lui-même, il a dit, j'ai été bête. Parce que quand Dieu, j'ai vraiment cherché Dieu humblement, Dieu m'a montré le sort des païens. Aujourd'hui, bien aimé, la plupart d'entre nous qui sommes là, nous n'avons pas de jugement dans un tribunal quelconque. Jacques Chirac est obligé au mois de septembre de passer devant un juge. Bien aimé, pour beaucoup, quand ils entendent ça, ils ne comprennent pas la douleur que ça peut être. Pour un président, c'est comme Dieu pour le pays. Il fait ce qu'il veut. Quand il doit aller dans un endroit, l'endroit est quadrillé par les soldats, tout est contrôlé, il vient comme un prince, il passe, donc garde du corps, tout ça, tout le monde s'écarte. Tout le monde est petit. Bon, vous imaginez maintenant un président devant le juge, comme un enfant, on lui pose des questions, il faut qu'il réponde. C'est une grosse douleur pour ces gens-là. Mais c'est ce qui arrive. L'argent ni le pouvoir ne sont des sécurités. La vraie sécurité, c'est celui qui tient ton âme. C'est lui qui tient la vie. C'est lui qui a les clés du monde. Vous savez, il est écrit que Jésus-Christ a arraché les clés de la mort et du séjour des morts au diable. C'est Jésus, le roi des rois. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. C'est ça la vraie sécurité, être avec celui qui est le chef de tout. C'est ça la vraie sécurité. Et beaucoup cherchent la sécurité qui leur donne une sorte de supériorité vis-à-vis des humains. Tu vas voir un féticheur, il te donne le pouvoir de voyager pendant la nuit, pendant que nous on dort, tu vois nos lits, tu vois nos oreillers, mais et après ça te fait quoi? Et un jour, comme on dit dans mon pays d'origine, ton carburant nocturne va s'épuiser et on te retrouve par terre KO. Oh, mais voilà, tu es fini. Il y a un grand sorcier qui était connu ici, un certain Royer. Il est où maintenant? Il était connu en Normandie, dans le tombeau. Donc il n'a pas su, à 69 ans. Pourtant, il y a des gens simples qui vivent jusqu'à 75 ans, 80 ans, 82 ans. Lui, le grand voyant, il meurt à 69 ans. Il n'a pas su ça. Lady Diana avait consulté des voyants avant sa mort. Elle n'avait pas su ça. L'argent, les puissances de notre siècle ne sont rien du tout. Elles ne donnent aucune assurance, aucune sécurité. Il ne faut pas envier cela. Il ne faut pas que tu sois serviteur de Dieu, tu cherches à ce que ton église soit remplie de gens. Il faut prêcher la vérité. Ceux qui suivent, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas, ils suivent le mensonge. Voilà, Dieu verra avec eux. Mais il faut prêcher la vérité. On ne doit pas chercher à ce que le nombre soit là. Il faut chercher à ce que les vrais disciples soient là. C'est ça que Dieu veut. Il ne faut pas chercher la gloire de la terre. Nous lisons un passage biblique qui nous confirme cela. Luc 12, 30, 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, bien-aimé. Tout celui, il y en a qui se reposent sur leur femme, sur leur mari, et ils font tout pour les mettre à l'aise, puisque c'est leur richesse. Un jour, tu seras confondu. La vraie richesse, c'est Dieu. On voit à la télé les stars de cinéma qui divorcent. Donc, malgré le maquillage, malgré les régimes, malgré les vêtements de j'ai même oublié le nom de couturier, Pierre Cardin et consorts, divorce. C'est que l'homme n'est jamais satisfait. C'est pourquoi, pour qu'il soit satisfait, il faut qu'ils boivent à la vraie source, à la source intarissable de l'amour, de la paix et de la joie de Dieu. Voilà ce que Dieu nous propose. C'est cette source-là. Et quand on est branché à cette source, nous avons tout. Et cela se manifeste au bon moment. Nous lisons 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Verset 4. On peut commencer au verset 3. Nous ne voulons, c'est Paul qui parle, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Comme n'ayant rien, on nous regarde comme n'ayant rien. En réalité, nous possédons toutes choses parce que c'est notre papa qui possède tout et dont nous sommes ses fils. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus. On nous regarde comme n'étant pas connus, mais Dieu nous connaît. Si Dieu nous connaît, c'est le plus important. C'est le plus important. Que Dieu nous connaisse, c'est ça le plus important. Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui protège, c'est lui qui donne la santé. Même si les humains ne nous connaissent pas, étant regardé comme imposteur, mais du moment que toi tu sais que tu marches dans la vérité et que cette vérité est attestée par la Bible, Dieu t'approuve. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 17, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu approuve. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Alors quand tu as l'approbation de Dieu, pourquoi tu te tortures pour que les hommes reconnaissent que tu es vrai? Ce n'est pas normal. Tu as tout. Tu as l'approbation de Dieu. Ça doit te tranquilliser. Même le Seigneur Jésus a dit, si tout le monde parle du bien de vous, il y a un problème. La vérité doit gêner quand même. Si la vérité ne gêne plus, ce n'est pas la vérité. Ça voudrait dire que les hommes aiment la vérité. Or, la nature humaine n'aime pas la vérité. Donc, réellement, si on est serviteur de Dieu, on doit gêner. Et il y a des gens qui veulent tout faire pour passer partout. Avoir une position ou un langage que tout le monde accepte. Non. Nous sommes regardés comme imposteurs, quoi qu'étant vrai. Donc il faut avoir le langage de Dieu. Et ce langage te fera regarder par certains comme imposteurs, par d'autres comme étant un bon langage. Mais l'essentiel, c'est que Dieu approuve. Nous sommes regardés comme pauvres, mais nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches, sauf que nous ne possédons pas physiquement, nous ne promenons pas avec toute notre richesse, mais notre richesse est placée auprès du Seigneur et elle se manifeste au moment donné. C'est ce qu'il faut vouloir, c'est ce qu'il faut chercher. Et Paul dit, nous passons dans les prisons, nous passons, il y a des séditions, nous subissons des coups, nous subissons, voilà, il y a toutes sortes de détresses, mais dans toutes ces choses, Dieu est avec nous et cela nous suffit. Parce que si Dieu est avec nous, nous sommes confiants, nous sommes assurés de l'issue de tous ces événements, de toutes ces détresses, l'issue nous sera toujours favorable. Jésus-Christ partait à la crucifixion et les gens se moquaient de lui. Les gens ont crié sur lui. Il y a même des femmes qui ont pleuré. Jésus a dit, mais ne pleurez pas, femmes, parce que moi, c'était prévu ce qui m'arrive. Je le savais, moi. Pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Parce que si moi qui suis bon, le contexte du monde, la configuration du monde, à cause du péché de l'homme, fait que je pâtisse ainsi, alors vous qui êtes le bois sec, il a dit, moi le bois vert, je souffre comme ça. Et vous le bois sec, ça sera comment? Jésus s'est contenté de l'approbation de son Père. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a vraiment meurtri? Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'on l'injuriait par les gens, on se moquait de lui, il n'avait pas réagi. Mais quand son Père l'a abandonné, parce que nos péchés ont été mis sur lui, c'est ça qui a déstabilisé Jésus. C'est ça qui l'a fait pleurer. C'est ça qui l'a fait crier, Seigneur, mon papa, pourquoi tu m'abandonnes? Parce qu'il savait que si son papa l'accepte, même si toute l'humanité le rejette, c'est le plus important, c'était que son papa l'accepte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent être acceptés par tout le monde. Mais non, bien-aimés, que Dieu nous accepte. Dans notre façon de nous comporter, dans notre marche, que Dieu nous accepte. La vérité, c'est la vérité. Si nous devons prêcher que le concubinage, c'est un péché, nous devons prêcher que l'homosexualité, c'est un péché, même si ce n'est pas accepté. Mais c'est ça qui donne la vie, bien-aimés. C'est ça qui change. Quelqu'un qui est dans le concubinage, il est dans l'instabilité parce qu'il n'y a aucun engagement. Mais quand quelqu'un dit « je t'épouse », même si ce n'est pas un chrétien extraordinaire, il y a quand même un engagement. Il s'engage. Même dans le monde, on dit pour le meilleur et le pire. Il y a un engagement. Le jour où la flamme diminue un peu, l'engagement vient au secours pour relever la flamme. Mais quelqu'un qui est dans le concubinage, le jour où la flamme diminue, il dit, bon, de toute façon, on n'avait pas de contrat. Moi, je ne te sens plus. Voilà. Bien-aimés, nous devons prêcher la vérité de sorte que les gens entrent dans quelque chose qui va leur donner le vrai bonheur. De sorte que les gens entrent dans la communion avec le Père qui va leur donner l'éternité au ciel. Nous ne devons pas chercher à se faire accepter. Et je conclue en disant ceci. Quelle est la conséquence du fait qu'on a tout reçu? C'est que maintenant, nous devons aimer donner plus que chercher à recevoir. Il y a des chrétiens qui disent, ah, moi, on ne m'aime pas. On ne me dit pas bonjour. Un tel ne m'a pas calculé. Ah, bien-aimé, tu as déjà tout reçu. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné son Fils. Le Fils de Dieu, c'était tout pour lui. Son Fils unique. Bien-aimé, la Bible insiste sur ce mot-là. Dieu a donné son Fils unique. Donc, c'était tout pour lui, toute sa richesse. Il a donné pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné de tes péchés. Il a montré son amour envers toi. Alors, quel est l'amour humain qui sera supérieur à celui-là? Ah, mais moi, on m'a pas dit bonjour. Ah, mais moi, j'ai l'impression que le pasteur a ses préférences. Ah, mais le pasteur, c'est qui? Ce n'est qu'un homme. Si Dieu t'aime, c'est ça qui est important. Maintenant, comme Dieu t'aime, tu es rassasié de son amour. Conséquence, toi, tu vas donner cet amour aux autres maintenant. Voilà. Et la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Tu veux que les autres te visitent? Toi, visite les autres. Parce que Dieu t'a déjà visité. Dieu t'ayant visité, tu as reçu tellement de choses que tu devrais avoir envie de les distribuer. Bien-aimé, vous imaginez recevoir la visite d'un président. Qu'est-ce que tu ne vas pas lui demander? Une maison, un boulot, quelques BMW, et puis maintenant, dès qu'il s'en va, il dit, frère, j'ai quelques recommandations. Tu cherchais un travail, bon, on va aller voir un tel. Parce que tu as reçu. Alors, chaque chrétien a déjà reçu la visite du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il a dit, j'ai frappé, tu as ouvert, je suis entré pour souper avec toi, moi, et toi avec moi. Alors, tu as eu tout le temps de recevoir tout ce que tu voulais. Maintenant, passe ton temps à donner, à aider les autres, à dire bonjour aux autres et non pas à vouloir à tout prix que les autres fassent cas de toi, te regardent, te visitent, fassent aussi. C'est, tu as tout reçu de Dieu, maintenant donne. Conséquence, ne pas envier les païens bien-aimés. Toi, tu as Dieu, tu as tout. Mais le païen, il n'a pas Dieu, il n'a pas d'espérance. Au moins, quand il a sa voiture, sa très belle voiture, dis-toi, Seigneur, bon, lui, il n'a pas Dieu, qui se console au moins dans cette voiture-là. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit aux riches? Non, Abraham a dit aux riches, dans l'histoire du riche et de Lazare. Il a dit aux riches, quand tu étais sur la terre, tu avais beaucoup de biens, ça te consolait. Mais Lazare, lui, n'avait rien, maintenant il est consolé. Donc, en quelque sorte, Lazare, il avait Dieu. Donc, il n'avait pas besoin de tous les biens du riche. Mais le riche, il n'a pas Dieu. Moi, souvent, quand je vois les païens très riches, je dis, Seigneur, tu es bon. Enrichis-les. Au moins, qu'ils soient consolés sur la terre en attendant d'aller en enfer. C'est ça, bien-aimé? Parce qu'ils vont souffrir plus tard. Autant qu'ils mangent bien quand même sur la terre. Autant qu'ils soient bien habillés sur la terre. Ils n'ont que ça comme consolation. Pourquoi avoir des idées que les gens, les païens souffrent? Ce n'est pas bon. Ça, c'est la jalousie. Il faut dire, bon, eux, ils n'ont que ça. Moi, j'ai Dieu. C'est bien. Moi, j'ai Dieu. Quand j'étais à l'école, je crois au collège, on nous avait raconté l'histoire de deux frères. Un qui était marié et un qui était non marié, célibataire. Et les deux étaient héritiers de leur papa. Ils avaient hérité de la même quantité de terre. Et au moment de la moisson, au moment de la récolte, celui qui est marié, il dit, mais bon, mon frère, il est célibataire. Moi, j'ai mes enfants. J'ai ma femme qui sont ma joie. Mais lui, il n'a que l'héritage de papa. Il n'a que sa moisson comme joie. Je vais augmenter sa joie. je vais prendre un peu de ma moisson en cachette pendant la nuit, lui rajouter sans qu'il s'en rende compte. Ainsi, sa joie va augmenter. Et le frère qui avait la moisson, il dit, mais moi, je suis célibataire. Il n'y a personne qui dépend de moi. Ce n'est pas difficile pour moi de vivre. Mais mon frère, il a des enfants, il a une femme. Ben, pour l'aider, je vais prendre une part de ma moisson, lui rajouter en cachette. Bien-aimés, c'est des gens qui avaient compris que ils avaient tout. Alors, vaut mieux donner aux autres ce qu'ils avaient, puisqu'ils avaient déjà tout. Mais bien-aimés, on a déjà Dieu. Moi, je connais, il y a des gens qui n'aiment pas donner aux riches. Ah, mais lui, il a déjà. Oh, ça, c'est la jalousie. Il faut donner encore. Quelqu'un est riche, on lui donne quand même, parce que nous, on a tout. Voilà. On a tout reçu de Dieu. Donc, on peut donner à n'importe qui. Je vois dans le milieu même chrétien, beaucoup ne font pas de cadeaux aux gens qui ont beaucoup de moyens. Ils se disent, mais lui, il l'a déjà. C'est une mauvaise logique. C'est la jalousie en quelque sorte, mais il a déjà beaucoup, nous on en a un peu. C'est la jalousie. Si vraiment tu es un vrai chrétien, donc tu as tout reçu. Tu as beaucoup, donc tu peux donner. Même à celui qui, en apparence, a beaucoup plus que toi. Parce qu'en réalité, il n'a pas beaucoup plus que toi, parce que toi, tu as Dieu. Puisque tu as Dieu, tu as tout, donc tu peux quand même lui donner. Vous imaginez que Paul, en prison, c'est le gouverneur qui demande à Paul, « Est-ce que tu peux me corrompre ?» Comment ce gouverneur-là, lui, il est gouverneur, vous savez, comme le maire de la ville. Tu vas voir un prisonnier, tu demandes au prisonnier de te corrompre. Donc, c'est que tu es conscient que le prisonnier, il est plus riche que toi. Donc, le gouverneur devait se dire, « Mais tiens, cet homme reçoit des visites étranges, des grands messieurs, des fonctionnaires. Mais qui est-il ? Sûrement, il doit avoir beaucoup de moyens. Donc, je vais demander la corruption. » C'est pour nous dire comment un gouverneur demande à Paul de le corrompre. C'est que l'apparence de Paul, la gloire de Dieu faisait qu'il donnait l'impression d'être riche. Aujourd'hui, beaucoup veulent montrer qu'ils sont pauvres afin que les autres leur donnent. Je n'ai plus d'argent dans mon compte bancaire, mais si je mets les chaussures neuves, les frères vont croire que j'ai des moyens, donc ils ne penseront pas à m'aider. Alors j'ai mis les vieilles chaussures. Comme ça, les gens vont avoir pitié de moi. Oh, tu n'as rien reçu. Si tu es vraiment de Dieu, tu as tout reçu. Tu dois penser maintenant à distribuer, à donner. Amen. Ne pas bien aimer exiger les choses des humains. C'est ça la conséquence. Puisque Dieu nous a tout donné, ne rendons pas les humains responsables de notre pauvreté, responsables de nos problèmes, puisqu'on peut tout recevoir par Dieu. C'est clair, bien-aimé. Là où tu accuses les humains, tu as un anti-poison auprès de Dieu. Si les humains t'ont mis un certain poison, tu peux auprès de Dieu recevoir l'anti-poison. Alors, au lieu de t'attarder à guerroyer, à déranger les humains, à dire « mais c'est à cause de vous », parce que pendant que tu discutes avec eux, le poison, il agit. Vaut mieux dire « bon, ils m'ont mis le poison, moi, j'ai l'antipoison, c'est Dieu. J'ai l'antidote, c'est Dieu. Donc je prends l'antidote et ça m'est guéri, c'est bon. Maintenant, étant guéri, je peux aller les voir pour les aider à ne pas propager du poison. » Mais nous, on passe notre temps à dire c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Ma situation est difficile à cause d'un tel, à cause d'un tel, à cause d'un tel. Alors que nous avons la solution auprès de Dieu. Passons plus de temps à discuter de la solution avec Dieu qu'à accuser les autres. Ce n'est pas bon. Dieu peut nous rendre heureux et combler les vides créés par les autres. Amen. Et je finis en disant, les chrétiens, arrêtez d'être des brebis grasses. Venir toujours écouter les prédications. Écouter les prédications. Il y a l'accueil qui vous met là. Allez, assis-toi là. La louange. Il y en a qui sortent du culte. Ce culte aujourd'hui était froid. Bon, et puis d'autres, un autre dimanche. Oh, c'était chaud aujourd'hui. Donc, c'est des brebis grasses qui viennent consommer. Non, bien-aimés, nous distribuons des tracts d'évangélisation. Ce n'est pas rempli le jour de la distribution des cartes d'évangélisation, mais le jour de culte, ça c'est rempli, il y a beaucoup de monde. Bien-aimés, non, ça c'est... vous allez devenir des gens impotents spirituellement. Non, le chrétien, tu as reçu la parole, tu as reçu la prière, tu as reçu les dons de Dieu, tu as reçu Dieu. forcément tu es rempli, tu es rassasié, tu as tout reçu. Maintenant, il faut penser servir Dieu. Il y en a qui disent, mais non, moi, je n'ai pas beaucoup de qualité. Je ne sens pas l'onction en moi. Non, ça, c'est des excuses. La femme qui a déversé tout le parfum sur Jésus, Jésus a dit ce langage, elle a fait ce qu'elle a pu. Tu peux faire quelque chose. Peut-être tu ne peux pas encore prêcher, mais tu peux faire autre chose. Il y en a qui disent, mais moi j'attends que le pasteur me dise. C'est faux. Pour appeler quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, il faut que le pasteur te dise. Pour aller visiter les gens qui sont seuls, est-ce qu'il faut que le pasteur te dise? Bien-aimé, tu as tout reçu, c'est l'heure de servir Dieu. Il y en a qui disent, mais moi j'attends d'abord d'avoir le don de parler en langue. Mais bien-aimé, tu as déjà entendu Jésus parler en langue. Dans la Bible, lit quelque part, Jésus est en train de parler en langue. Non, bien-aimé. Est-ce qu'il n'a pas servi? Jean-Baptiste a parlé en langue. Est-ce qu'il n'a pas servi Dieu? Non, bien-aimé. Il n'y a pas d'excuse. Il y en a qui disent, j'habite loin. Oh, mais qui t'a demandé qu'il fallait se déplacer pour servir Dieu? Qui t'a dit ça? Là où tu es, sers Dieu. Il y a quelque chose à faire. Mais pour que l'idée même vienne, il faut que tu sois dans la position, j'ai beaucoup reçu, j'ai tout reçu, je suis rassasié, maintenant ça doit s'exprimer. Amen. C'est la position que nous devons adopter. J'ai tout reçu. Qu'un pasteur te reconnaisse ou pas, ce n'est pas ça le problème. Tu as tout reçu de Dieu. Maintenant, mets-toi à l'œuvre pour le salut de ta famille. Mets-toi à l'œuvre avec les moyens que tu peux. Il y en a qui sont très forts à la cuisine, que la cuisine te serve à servir Dieu. Il y en a qui sont hospitaliers, que l'hospitalité t'aide à servir Dieu. Tu as tout reçu, c'est le moment de donner maintenant, de tout donner. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Nous devons arrêter de pleurnicher, mais nous devons nous mettre à l'œuvre, parce que nous avons tout reçu de Dieu. Et nous ne devons pas envier ceux qui semblent avoir plus que nous. Non, parce que nous avons tout reçu. Nous devons pardonner, bien-aimés. Parce que souvent, nous ne pardonnons pas parce que c'est comme si les injures ou les mauvais actes des autres nous ont pris quelque chose. Or, si nous avons tout reçu, on ne nous a plus rien pris. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas dans ton compte, tu trouves qu'il y a 1000 euros en moins. Deux minutes plus tard, parce que quand tu trouves qu'il y a 1000 euros en moins, tu portes plainte. Deux minutes plus tard, tu vois que les 1000 euros sont revenus. Qu'est-ce que tu fais? Tu annules la plainte. Voilà. Une telle personne t'a fait mal, t'a blessé. Tu t'en plains. Mais après, quand Dieu te restaure, te donne la paix et la joie, ben, tu dis, Seigneur, j'annule tout ça. Parce que je suis bien. Pourquoi créer encore des problèmes? Si on a tout reçu, on peut pardonner. Parce qu'on est bien, on est rempli, on est rassasié. Il n'y a plus de vide. Dieu veut qu'on marche vraiment dans cette position-là. J'ai tout reçu, donc je peux obéir à Dieu. Dieu m'envoie en mission, je peux y aller parce qu'il m'a tout donné. Il ne m'enverrait pas en mission s'il ne me donnait pas tout. C'est ça, bien-aimé. Soyons dans l'écoute du Seigneur. Rappelons-nous la phrase de Paul, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, donc maintenant je peux servir Dieu, je peux y aller, je peux donner aux autres, je peux vivre pour le Seigneur. Amen. Levons-nous, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous rappelles que tout est accompli à la croix. Tout est accompli. Ça veut dire que tu as achevé la construction que tu voulais faire en nous. Or, dans cette construction, il y a toutes les bénédictions. Dans cette construction, il y a tous les dons qui sont prévus. Dans cette construction, il y a notre avenir qui est dedans. Les projets fixés par toi, tout est dedans. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. C'est fini, c'est achevé. Puisque c'est achevé, puisque ça t'accomplit, Nous n'allons pas passer notre temps à chercher des choses comme si nous ne les avions pas. mais nous allons les chercher parce qu'elles sont cachées quelque part. Elles existent, elles sont là. Et dans notre marche avec toi, dans notre humilité que nous allons essayer de pratiquer par ta grâce, dans notre obéissance, je crois, Seigneur, que nous allons vivre ce qui est écrit. Nous voulons que tu nous donnes un élan nouveau, qu'on cesse de polémiquer sur ce que nous manquons, plutôt qu'on se concentre sur le fait que nous avons tout reçu et qu'on avance et les choses vont se manifester au fur et à mesure que nous avançons, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Pardonne-nous, Seigneur, toute forme de léthargie spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, des comportements de géniards, Seigneur, des comportements de plaintifs. Pardonne-nous, Seigneur, la jalousie. On s'est arrêté d'agir parce qu'on a cru que, on a regardé à l'autre, on a estimé que l'autre était mieux pourvu que nous. Et c'est pourquoi on n'a plus voulu agir, Seigneur. Pardonne-nous de t'avoir jugé mal. On a cru que tu étais injuste et que tu avais doté les uns de plus de bonnes choses que les autres. Oh, tu n'es pas injuste. Jésus est mort pour chacun de nous. Jésus est venu habiter dans chacun de nous. Il n'y a pas de favoritisme. Aide-nous, Seigneur, à recevoir tout ce que tu nous as donné par Jésus, ton Fils, afin que nous puissions être de ceux-là que tu vas utiliser pour sauver, donner aux autres aussi, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.